Premier chapitre du livre « Le problème religieux » par Olivier Rogier d'Yasher Chaim Halevi. L'univers et la vie. Section « Estimation de la réalité ». Sous-section « Conscience et perception ». Ainsi ai-je entendu les humains enseigner. Il existe chez l'être humain une chose qui a conscience des choses, qui pense au sujet de ces choses, et qui exprime des interprétations et des théories au sujet de ses observations grâce au langage. Cette chose perçoit sa propre existence et l'existence des autres choses en fonction de ses perceptions sensorielles, de ses connaissances, de sa mémoire et de son intuition. Cette chose conçoit généralement le monde où elle évolue comme un lieu global, qui peut être limité ou illimité, ainsi qu'unique ou multiple, selon ses références éducatives et cognitives et selon son imagination. En ce grand lieu parfois nommé création, se trouvent des objets inertes et des objets vivants, composés apparemment de matières atomiques assemblées en diverses structures géométriques, formant des unités distinctes et séparées qui peuvent interagir et communiquer. Ces objets peuvent contenir d'autres objets plus petits et faire partie d'objets plus grands selon les lois ensemblistes de l'inclusion et de l'appartenance. Ces objets doués d'une énergie statique et cinétique sont localisés dans l'espace de cette étendue et évoluent dans le temps selon la variabilité des limites et des règles du lieu. Par exemple, selon la théorie cellulaire, un corps humain est composé de cellules assemblées en organes et il fait partie d'une famille, d'une communauté et d'un peuple. Que son corps se déplace ou reste en apparence immobile, jamais rien ne s'arrête de se mouvoir en lui, même après sa mort, et ses atomes nés au sein du soleil perdureront jusqu'à ce qu'ils soient transformés à nouveau au sein d'une étoile. Cette chose merveilleuse nommée conscience, le moi du « je pense donc je suis », est l'expression globale d'un remarquable programme génétique pluricellulaire à la fois différentiellement délocalisé et cérébralement centralisé qui s'exécute dans le temps, depuis la fusion des gamètes jusqu'à l'arrêt de son mouvement. Section Phénomènes et événements. L'être humain conçoit généralement le changement d'état énergétique et de position spatiale grâce à la perception temporelle qui permet de différencier la modification et l'évolution du phénomène observé par les sens et par la pensée. Le temps est une perception du mouvement qui dépend d'un fonctionnement cérébral intrinsèquement lié au mécanisme rythmique des phénomènes génétiques. Il est inséparable de l'espace. Ce n'est pas une dimension. C'est un paramètre relatif à la dimension qui mesure le délai du phénomène au sein de celle-ci, et non sa qualité ou sa quantité. Le temps est l'écoulement d'une perception à la fois unie, continue et linéaire, et graduelle, fragmentée et quantique, représentative d'un avant et d'un après un instant donné, relatif à une référence arbitraire au sujet de quelque chose. Il y a certes la convention humaine d'un temps universel qui aurait commencé lors du Big Bang, mais tout comme il est impossible de trouver le bord de la surface d'une sphère ou d'une planète, il est en réalité impossible de trouver le commencement des temps que les scientifiques repoussent encore et encore au fur et à mesure qu'ils observent les choses qui occupent l'espace sans même savoir si ce qu'il voit n'est pas le résultat d'un artefact d'optique de quelque chose localisé ailleurs. De nombreuses théories sont formulées à ce sujet. Les voyages dans le temps, le passé, et entre les dimensions de la science-fiction n'existent que dans l'imaginaire et n'ont aucune réalité. Ces phénomènes peuvent toutefois avoir une authenticité pour l'esprit, mais il s'agit alors d'autres phénomènes qui relèvent de procédés conceptuels de la mémoire et des états de conscience dont les postulats et les considérations forment les multiples univers personnels et grégaires au sein de l'entité cellulaire. L'être humain nomme généralement perception extrasensorielle et phénomène ou événement paranormal, surnaturel ou religieux, les choses dont il ne perçoit ou ne connaît aucune explication physique tangible, observable et mesurable par lui-même et par la plupart de ses congénères. Parfois, il nomme Dieu, au pluriel, certaines de ces choses, et Dieu, au singulier, ce qui serait créateur universel de toutes choses physiques et non physiques. Il ne connaît habituellement pas l'origine de ces concepts qui subissent des transformations et des altérations à travers les âges, que cela soit délibéré ou non intentionnel. Sous-section : Physicalisme et unité de vie. Le postulat du physicalisme définit tout simplement deux genres au sujet des choses étudiées. Le type, qui détermine qu'à toute propriété non physique correspond une propriété physique. Et l'objet, qui détermine qu'à tout événement non physique correspond un événement physique. Des scientifiques ont établi qu'à chaque genre d'événement émotionnel correspond un type de phénomène mettant en jeu des composés chimiques qui circulent dans le corps humain et qui modifient les perceptions, les raisonnements et les actions. C'est le type, la classe, le concept, la règle, le mécanisme. Lorsque l'événement émotionnel se produit, le composé chimique est sécrété par les cellules. C'est l'objet, l'instance, la réalité, l'usage, le processus. La première conséquence de ce postulat résout la distinction séparative entre la nature du corps, ou ce qui est perçu comme physique, et la nature de l'esprit, ou ce qui est perçu comme non physique, en définissant que tout est de nature physique et que toute manifestation non physique se produit obligatoirement grâce à un support physique sans lequel le phénomène ne peut avoir lieu et devenir événement. La deuxième conséquence est qu'il n'y a qu'un seul univers physique, même si notre perception en est habituellement limitée à l'espace tridimensionnel, que rien n'est plus petit ou plus grand que cet univers composé d'éléments visibles et invisibles qui sont distinguables et différenciables, que la création destructrice de l'univers est sa destruction créatrice, que quoi qu'il ait existé avant ou quoi qu'il existe après, il n'y a que la matière physique perceptible par les sens corporels développés, latents ou concevables, et par des appareils de mesure. Que toute perception d'une chose non physique est un artefact d'observation ou de conscience de cette chose, ayant souvent pour origine l'ignorance, l'incapacité à percevoir le lien cause-effet ou le déni volontaire ou involontaire des mécanismes sous-jacents. Qu'il n'y a pas de choses telles que des univers parallèles ou perpendiculaires, ni d'au-delà, ni le paradis et l'enfer que sont les états de conscience et les expériences de vie, même si à la question « qui ou quoi a créé » la réponse serait quelque chose d'immatériel sans début et sans fin, hors du temps et de l'espace, telle une équation divine inconcevable et inadmissible pour l'esprit des adultes qui en cherche l'auteur qui est manifestement une pure logique mathématique parfois nommée Dieu, même par les athées lorsqu'ils le réfutent. La troisième conséquence est que les vies antérieures et la réincarnation n'existent pas. Ces phénomènes ont néanmoins des explications et des implications. En effet, lorsqu'une unité de vie est créée lors de la fusion des gamètes, une nouvelle unité de conscience est engendrée, munie de son héritage génétique. Des sociologues, des ethnologues et des généticiens ont établi que chez les bactéries, chez les animaux et chez les humains, les générations enfants héritent certains comportements transmis par les générations antérieures, tels que la peur et autres mécanismes mis en œuvre dans les actions survie et anti-survie, même à l'absence de contact et d'éducation. Ces phénomènes dépassent le simple cadre individuel et familial car ils s'appliquent aux groupes et aux espèces. En conséquence, dès lors qu'un phénomène indirectement objectivable sur le plan matériel peut d'une manière quelconque avoir une explication concrète et définissable avec certitude grâce aux lois du plan matériel, toute autre interprétation, qui peut parfois être non moins correcte, relève d'une perception de la conscience selon un mode conceptuel et une échelle harmonique. Sous-section éternité et cycle. Selon la théorie ensembliste, le tout infini est la somme des parties qui le composent et il n'a pas d'existence propre. L'unité est une partie du tout et la somme des unités est le tout. Le tout n'existe que par l'existence des unités. Sans unité de conscience, il n'y a rien. C'est l'ensemble vide. Pas d'observateur, pas de vie, pas de matière, pas d'univers. Ni zéro pour compter, ni infini pour dénombrer, pas de nombre ni de lettres pour exprimer, mais il suffit d'une unité et tout existe. L'éternité de l'humanité et d'une espèce commence lors de la création de son premier ADN et s'achève lorsque tous ont disparu, pour recommencer ailleurs et autrement. Au fil des éons, des cycles cosmiques et des cataclysmes, la technologie, le savoir et la justice se perdent, mais pas la science, qu'elle soit protégée par des méchants, par des justes ou par la vie. Section direction de l'interaction. Sous-section âme et esprit. Les choses comme l'émotion, le sentiment, l'amour, l'âme, le mental, la pensée et l'esprit sont de nature physique, et sont perçues par le physique ou le manifesté comme non-physique ou comme manifestation. L'arithmétique et la géométrie sont la clé des mécanismes atomiques, chimiques, organiques, cérébraux, émotionnels et mentaux, car ce sont les principes du fabriqué, du construit et du bâti. La théorie cellulaire met en évidence les moyens mécaniques qui animent les membranes cellulaires, les organites, les protéines et l'ADN du vivant. Il a été établi par les scientifiques que les fonctionnements émotionnels, comportementaux et mentaux sont des processus génétiques, et pas seulement épigénétiques, mis en œuvre par ce qu'ils appelaient autrefois de la matière génétique poubelle non codant des protéines de structure, c'est-à-dire plus des 95% du génome humain, soit plusieurs disques durs de grande capacité par cellule. Du point de vue de l'informatique, l'ADN codant correspond à 5% de données de structure pour fabriquer et maintenir un bioordinateur et ses périphériques, le reste étant du code logiciel, des sous-programmes et des paramètres dont la technicité de codage surpasse l'inventivité humaine. Le langage est ce qui forme l'esprit, principalement la langue natale. Il est donc actuellement mis en évidence qu'une partie du mental humain, c'est une partie de son ADN. Les mitochondries et les centrosomes entrent en jeu dans ces mécanismes. Des chercheurs étudient depuis plusieurs années la communication cérébrale permettant de piloter directement des ordinateurs et des appareils à l'aide d'instruments qui captent les ondes cérébrales grâce à des électrodes implantées dans le cerveau, grâce à des capteurs posés sur la peau du crâne et grâce à des boîtiers situés à de courtes distances de la tête. Des logiciels permettent même de commencer à reconstruire sur un écran de vagues images mentales grâce à l'imagerie par résonance magnétique. La réalité de la télépathie n'est donc pas une question puisqu'elle existe. Tout comme il est de notoriété publique que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Les télépathes sont aux non-télépathes ce que les voyants et les auditifs sont aux aveugles et aux sourds. L'enjeu moderne d'un tel phénomène ancestral est de connaître son fonctionnement, ce qui est de la compétence des occultistes et des scientifiques, de définir les règles d'utilisation et les peines encourues en cas de mauvais usage, ce qui est du ressort des législateurs et des juges, et d'apporter des éléments de réflexion nécessaires aux choses précédentes, ce qui est le rôle des sages, des philosophes et des religieux. Sous-section. Savoir et mystère. Il serait possible de penser que savoir, cela fait tomber le mystère et la beauté de la vie. Pourtant, c'est dans l'immensité de la remarquable complexité partiellement compréhensible des lois de l'organisation matérielle et immatérielle qu'est le merveilleux, car aucune créature ne peut être capable de créer ces dispositifs malgré son pouvoir de mise au point de machines, de modification des gènes, de fabrication de chimères et de destruction abominable de la vie par des moyens de toutes sortes. Savoir, cela peut être intéressant et utile. Ne pas savoir, cela peut éviter des ennuis ou en causer sans qu'on le sache. Ne pas savoir et mentir, là sont l'obscurité et le mal. Plus il y a de lois, de règles, de normes et de limites, plus il y a de liberté d'initiative et de problèmes à résoudre. Plus il y a de contraintes, plus l'être humain est heureux et contrôle sa vie, car il possède beaucoup de possibilités de pensée et d'action. Il peut se mouvoir dans l'espace. Moins il y a de lois, de règles, de normes et de limites, plus il y a de pièges et d'esclaves. Moins il y a de contraintes, plus l'être humain est malheureux et se fait contrôler, car il n'est pas libre de penser et d'agir. Il ne peut pas se mouvoir dans l'espace. Mais s'il y en a trop, c'est l'oppression et c'est néfaste. Le raisonnement, type et objet, propre aux technologies informatiques de la communication et de l'information matérielle et immatérielle, offre une grande compréhension de la réalité de l'univers, de la vie et des langages. L'endoctrinement générationnel religieux, laïque et athéiste, et l'imaginaire mythologique auto-entretenu par les œuvres artistiques et philosophiques, sont une immense et imposante force qui s'oppose à la prise de connaissance grâce à l'exaltation aveugle dénuée d'enseignement et de considération de la réalité. La connaissance occulte ou scientifique du mystère de la vie n'a rien à voir avec les mensonges et les crimes qui résultent du mauvais usage et du mauvais contrôle des choses et des lois pour aboutir à la servitude depuis la naissance jusqu'à la mort. Il existe en Occident trois branches fondamentales d'une même sagesse royale et qui proviennent plus précisément de la Perse de Sarasoustra, de l'Égypte ptolémaïque et des Juifs du Talmud. La magie de l'âme, relative aux forces électromagnétiques et à la puissance de la volonté. L'alchimie du corps, relative au symbolisme et à l'imaginaire. La Kabbalah de l'esprit, relative à l'algèbre de la pensée et à la géométrie divine. En réalité, ces choses, lorsqu'elles ne sont pas altérées, dénaturées et mal orientées, comme dans le cas de l'idolâtrie et de la sorcellerie, sont relatives à une connaissance scientifique pour les uns et surnaturelle pour les autres, qui remonte à l'aube des temps génétiques et qui perdurera jusqu'à la fin. Sous-section. Origine et migration. Un traité d'occultisme n'en serait pas un s'il ne contenait pas au moins une petite idée extravagante. Aussi l'auteur émet l'hypothèse farfelue que la science royale, le yoga, le qigong, ou toute autre dénomination de la science sacrée, serait l'héritage d'une civilisation ancienne vivant sur le continent Gondwana, qui aurait disparu il y a environ 100 à 200 millions d'années, lorsque la plaque continentale indienne s'est détachée de l'africaine et s'est scindée de l'australienne, imposant ainsi les prémices d'un renouveau à travers la Mésopotamie-Égypte, l'Inde-Mongolie et l'Asie. Concernant les Amérindiens, une étude suppose comme origine un groupe venu de Sibérie. D'autres cataclysmes eurent lieu par la suite jusqu'à il y a 10 000 ans, et les humains vivent depuis une relative accalmie permettant le développement des arts, de la philosophie, de la science et de la technologie. Mais jamais l'humain n'a changé. Il est parfois bon et il est souvent méchant, car il convoite, il ment et il tue. Les plus récentes données génétiques et les divers modèles statistiques suggèrent que la sous-espèce humaine actuelle aurait pour origine un groupe qui aurait vécu en Afrique. L'auteur suppose non seulement qu'est là le vestige du continent perdu et l'origine des mythes tels que ceux de l'Atlantide ou de Mu, qui sont deux conceptions de la civilisation basées sur l'erreur fondamentale qui sépare la matière et l'esprit. Mais également que l'homme aurait à sa disposition le manuscrit de la doctrine de la Torah depuis avant l'époque de cette ancienne civilisation. Mais ce n'est ici qu'une libre réflexion sans preuve. Dans un premier temps, un groupe d'Africains se serait séparé du groupe originel pour conquérir le Moyen-Orient puis l'Europe et l'Asie, formant ainsi la branche nommée Néandertal. Ensuite, un nouveau groupe du groupe des Africains, devenu au fil du temps Homo sapiens, ont fait de même, et se sont mélangés aux Néandertaliens dont ils resteraient au sein de notre ADN individuel jusqu'à 5% de gènes qui nous aident notamment à résister à l'environnement. Il a été mis en évidence que les principales différences entre Néandertal et Sapiens sont morphologiques, les uns étant plutôt trapus et bourrus, les autres étant plutôt fins et agiles. Intellectuels, les uns ne fabriquant pas d'objets d'art et de culture à proprement parler, contrairement aux autres, ce qui n'est aucunement une qualité et un critère d'évolution, alors que tous ont la capacité physiologique du langage et la faculté cérébrale de l'abstraction symbolique. Et alimentaire, les uns étant plus carnivores et auraient dû faire face à une pénurie de gros gibier, les autres étant des agriculteurs éleveurs omnivores. L'hypothèse de la disparition de Néandertal serait son incapacité à survivre aux famines en raison de sa nourriture, alors que Sapiens s'adapte mieux au changement de son environnement. De nos jours, l'ensemble des Européens et la majorité des humains, à l'exception des Africains de la moitié basse de l'Afrique, posséderaient jusqu'à 5% de gènes Néandertal, qu'ils soient blancs, marrons, rouges, jaunes, verts, bleus, transparents ou autres. Sans Néandertal et sans Sapiens, pas d'humain moderne, car celui-ci existerait notamment grâce aux qualités et malgré les défauts de Néandertal et de Sapiens. Les opposants à cette théorie affirment que les gènes de Néandertal retrouvés chez les Sapiens modernes auraient pour origine non pas un croisement, mais un ancêtre commun. Les faits et les études génétiques semblent indiquer le contraire. Les paléoanthropologues étudient généralement l'évolution des hominidés en imaginant une succession de types basés sur des caractéristiques telles que la forme et la taille du squelette et du cerveau. Mais prennent-ils en compte les variations du champ magnétique et de la force de gravité qui obligent ainsi l'ADN à adapter sa structure afin de maintenir la fonction, sans parler des différents facteurs nombreux et complexes environnementaux et climatiques? Est-ce la technologie qui détermine le genre humain? Est-ce le culte spirituel? Absence est-elle incapacité ou infériorité? Présence est-elle faculté ou supériorité? Qui a dit que Erectus était différent de Sapiens? Un enfant est-il différent d'un adulte? Qui a imaginé nos ancêtres comme les sauvages des cavernes? Sous-section. Racisme et xénophobie. Autrefois, on employait le terme « race » pour désigner une sous-espèce animale ou humaine. Le terme adapté à l'homme qui reflète mieux la réalité et la différence est le mot « ethnie », car il inclut la notion de temps et d'environnement. Il a été démontré que la forme et l'aspect, tels que la couleur de la peau, et que la présence, l'absence ou les variations de gènes particuliers n'étaient pas ce qui caractérisait l'être humain en tant qu'espèce ou race, mais le nombre de paires de chromosomes, qui est en l'occurrence de 22, plus une mâle femelle. Le racisme, c'est l'opinion que la race doit être purifiée par la race, afin d'être améliorée selon certains critères structurels et fonctionnels. Parfois, le racisme inclut une distinction ordonnancée entre les ethnies et les cultures, selon une idée de supériorité souhaitable et d'infériorité indésirable. La logique démontre que ce point de vue est stupide car dépendant de l'instruction et des soins. Le rejet et la peur de la différence est ce que l'on nomme xénophobie. Racisme et xénophobie sont souvent confondus et parfois associés. L'antisémitisme est un cas particulier de racisme xénophobe. La Torah appelle non seulement à ne pas être raciste dans les actes, mais avant tout à ne pas être xénophobe dans les pensées. Le but de la Torah est l'élévation et la réparation de soi, ainsi que la tolérance de l'autre, de sa différence d'aspect et de pensée concernant les choses relatives, exception faite du mensonge, du crime et de l'idolâtrie, qui sont indiquées comme des choses mauvaises à rejeter et à enlever. La méchanceté est une chose universelle et indémodable qui n'a rien à voir avec l'origine ethnique et la couleur de peau. Certains groupes racistes et antisémites voient dans les récentes découvertes génétiques une justification à leurs opinions qui deviennent parfois anti-néandertaliennes. Mais ils interprètent mal les découvertes, parfois partielles, afin de justifier leurs postulats qui sont en réalité et de fait invalidés car ils se trompent. Ils sont ce qu'ils combattent. Il vient même d'être identifié un gène important relatif à l'immunité qui provient de ses ancêtres. Les faits et les diverses études récentes mettent en évidence que l'espèce humaine actuelle, dénommée Homo sapiens, serait le résultat de l'évolution et du brassage génétique dichotomant disparate et rétroactif de tous les types d'ancêtres jusqu'à l'organisme primordial, et que la notion de race pure est non seulement un mythe et un leurre, mais également une opinion folle et hérétique qui n'a aucune validité et qui y mène au désastre. Le problème humain est la bonne santé, le bon comportement et la bonne gestion des individus et de la société ainsi que de leur environnement. Section. Connaissance du verbe. Sous-section. Humanité et civilisation. Les choses les plus importantes sont la bonté, la bonne volonté et ne pas faire de mal. Pour cela, il faut savoir un minimum de choses. Il faut savoir ne pas convoiter, ne pas mentir, ne pas agresser, ne pas voler, etc. Il faut savoir que même si on sait, on peut être dans l'erreur absolue à cause de soi, à cause des autres, à cause des mensonges, à cause des manipulations, à cause des illusions et à cause de l'ignorance intrinsèque au savoir. Savoir ce qu'il faut faire et savoir ce qu'il ne faut pas faire pour que les choses aillent bien et mieux est le début de la sagesse, de la justice et de la civilisation. Croire, c'est ne pas savoir. Avoir la foi, c'est faire confiance. Savoir, c'est avoir la certitude que toute connaissance est flexible et partielle. Une croyance, c'est ce qui s'impose, non par la réalité des choses, mais par l'opinion sur ces choses ou par la force, que ce soit peut-être vrai ou peut-être faux. On n'en sait rien du tout. Savoir et douter sont le fondement du pouvoir et de la justice qui cherchent à déterminer des certitudes lorsque cela est possible. Sinon, c'est la dictature et le crime. Il y a quatre grandes formes de pouvoir. La parole temporisée du mental, l'argent énergétique du travail, l'occupation de l'espace et la force physique. La parole amène l'argent qui permet d'avoir des locaux sécurisant les moyens de communication défendus par des armes qui protègent et contrôlent ceux qui travaillent en fournissant du temps afin d'entretenir les locaux et le projet. La force physique est employée, en bien comme en mal, soit pour le maniement de la matière et des êtres, soit par les brutes lors de crimes, d'aides et de sports. Ce qui est essentiel, fondamental, indispensable, obligatoire, nécessaire et non suffisant, ce qu'exige la Déclaration universelle des droits des humains, ce qu'impose la loi et le bon sens, c'est soigner et aider en toutes circonstances. Lorsqu'on exerce un métier dans les domaines de la santé, du social et de la justice, ne pas soigner ou mal soigner, ne pas aider ou mal aider, et ne pas défendre ou mal défendre, est un crime. Ce ne sera jamais de la justice. Recevoir des soins médicaux corrects et non nuisibles, comme être défendu par un avocat honnête et objectif, n'est pas un droit reconnu et affirmé par les autorités comme universel tout en le refusant parfois, c'est avant tout un devoir qui devrait être enseigné lors des études, et cette notion devrait être vérifiée comme acquise, puisque ses serviteurs prêtent serment pour obtenir leur diplôme et leur autorisation d'exercer. Sinon il n'y a ni humanité, ni civilisation, et tous les crimes sont permis, lorsqu'ils sont organisés, alors qu'ils sont interdits par la morale, par le bon sens, par l'éthique, par la logique et par la législation. Agresser, ne pas soigner, ne pas aider, expulser du logement et retirer les droits, c'est un grand crime et c'est la preuve du crime. C'est le plus haut crime, car l'absence de soins et d'aide n'aboutit qu'à une seule et aussi inéluctable que lente finalité, la mort dans la souffrance. C'est la définition du crime contre l'humanité et ce crime peut se dérouler au cours de toute une vie. Les droits des humains et du citoyen sont actuellement des droits très relatifs. Ce sont intrinsèquement des droits qu'on a le droit d'accorder ou pas, selon la position hiérarchique, le pouvoir exercé, les intérêts, les buts, les savoirs, les opinions, et l'accord ou la peur qu'on a sur ces choses. Lorsque la législation est incohérente, qu'elle est mauvaise, ou qu'elle n'est pas appliquée, c'est que l'espèce est sur le chemin menant à la fin de sa civilisation. Seuls les adultes peuvent parfois savoir ce minimum de choses, s'ils ont été éduqués et si on ne les a pas entravés lorsqu'ils étaient enfants comme adultes, puisque l'être humain a normalement la capacité d'apprendre en permanence. La connaissance des choses de la vie et de la nature des enfants et des adultes est primordiale, car les humains ne sont pas des animaux, mais ils peuvent parfois et trop souvent être d'abominables monstres. Sous-section : démocratie et dictature. On appelle démocratie la politique et les décisions selon la majorité. Après la logique, c'est le plus grand pouvoir humain, car c'est l'accord du nombre des dirigeants et des dirigés, que ce soit bon ou mauvais. La démocratie est la plus grande association de gestion du groupe, du pays et du monde, approuvée par le plus grand nombre de participants dont le poids est pondéré par le pouvoir relatif et la peur de chacun. La démocratie est en réalité une forme de dictature animale, tribale, barbare et esclavagiste. Approuvé est son mot d'ordre, peu importe le vrai et le faux, le bien et le mal, le juste et l'injuste, les preuves et les lois, les vérités et les mensonges. Le risque ou la déviation de la démocratie se manifeste lorsque l'administration considère avoir tous les droits et qu'elle devient criminelle grâce au point d'équilibre du centre d'inertie de la majorité qui est d'accord ou persuadée. Le pire risque, c'est de remplacer la sélection naturelle passive par la sélection humaine active, à l'aide de critères discriminants, non éthiques, mentaux comme physiques. Lorsque tous ceux qui dirigent sont d'accord, évoquant le principe relatif du plus grand bien pour le plus grand nombre, même si c'est en réalité et invariablement mal. Ce qui est légal, d'un point de vue législatif, ce sont des règles dictées par des administrateurs qui sont plus ou moins appliquées au cours d'une époque donnée. Ce qui n'est pas légal, ce n'est pas la législation qui le définit, mais l'accord que les administrateurs ont à ce sujet, même si cela contredit la loi. Mais il y a toujours quelque chose qui transcende l'esprit des humains et qui les pousse à réclamer ou à établir de meilleures règles. Peu importe que les tout-petits-enfants soient innocents, peu importe que les adolescents ne comprennent pas souvent les responsabilités qu'ils apprennent à acquérir, peu importe l'oppression que supportent les adultes à cause de leurs erreurs et à cause des erreurs des autres, et peu importe la responsabilité ou l'irresponsabilité des administrateurs. Car que ce soit en présence ou à l'absence d'une décision de justice, ceux qui souffrent sont toujours et par définition victimes de l'action humaine ou d'un événement naturel, choses qui peuvent être provoquées directement ou indirectement, volontairement ou involontairement. Certains affirment que personne n'est irremplaçable. Penser cela équivaut à croire que la vie d'une personne n'a aucune valeur, hormis celle de celui ou celle des esprits des dirigeants du groupe, qui énonce cette assertion. Mais toute vie est importante, même celle des criminels qui doivent être retranchés et corrigés car ils se trompent, ils raisonnent mal et ils agissent de manière aussi dangereuse qu'incohérente et stupide en isolant et en détruisant leurs victimes. La définition du mot « injustice » n'est pas le crime subi ou en cours, mais soit absence de procès, soit procès partisan d'une entité autre que la loi afin de ne pas punir, soit condamnation d'un innocent à la place de quelqu'un d'autre, soit exécution sans procès. En effet, ne pas prendre le parti de la loi, de la vérité et de la justice, c'est prendre le parti du crime. La définition du mot cruauté est gangrène de l'espèce humaine. Sous-section guerre et jeu. La guerre désigne à la fois agresseur et agressé, les uns faisant le choix d'y participer et les autres ne l'ayant pas. Plus la guerre dure, moins les attaquants et les défenseurs sont différenciables. Parfois le point de vue sur l'origine est obscur. Parfois les attaquants se révèlent être les victimes et les défenseurs les criminels. Mais souvent tous sont victimes, car il est souvent rare que tous soient criminels, et ceux qui commettent des crimes ne le font que parce qu'ils sont aberrés, et ils aberrent ainsi leurs victimes. La guerre est le fruit de l'arbre des illusions et des mensonges. C'est le crime à grande échelle et c'est l'activité préférée des méchants. C'est un jeu pour adultes, qu'ils soient consentants ou non, où la vie et les enfants sont systématiquement victimes. La guerre est une zone de l'espace où s'affrontent des groupes et où il n'y a habituellement pas d'autre loi que le combat. Parfois des spectateurs et des organisateurs visibles ou invisibles observent son déroulement, mesurent les enjeux et font des paris. Quel que soit le degré de finesse ou de barbarie, la guerre est un mauvais jeu de société. Lorsqu'elle échappe au contrôle de l'administration, la guerre est civile. La guerre mondiale est une absence d'administration. Les hôpitaux vides sont un bon jeu de société sous contrôle de l'administration. Contrairement à la force de conviction mentale, toute guerre physique est un échec fondamental pour toutes les parties, car la guerre est une terrible illusion basée sur des mensonges qui tuent pour de vrai. Les personnes bonnes s'attaquent aux mauvaises idées. Les personnes mauvaises s'attaquent aux personnes elles-mêmes. Sous-section, victimes et criminels. La survie et le niveau de civilisation de l'espèce humaine peuvent se mesurer selon le nombre et la nature des cicatrices physiques et psychologiques de chacun de ses membres. Il y a deux sortes de cicatrices doubles, celles causées involontairement et celles infligées volontairement, celles qui sont soignées et celles qui ne sont pas soignées. La souffrance, comme la peur ou la haine, est un mauvais professeur. Plus il y a de souffrance volontairement imposée, plus il y a de mal engendré involontairement. La souffrance, ça provient soit des accidents et des erreurs lorsque ces choses ne sont pas provoquées, soit des actions de certaines personnes qui ne respectent pas les lois, que ce soit par ignorance, par stupidité ou par criminalité. Le but de la loi humaine est de protéger les personnes subissant un préjudice, les victimes, et de réformer celles qui causent ce préjudice, les criminels. Il y a quatre types d'êtres humains qui font face aux lois. Ceux qui s'évertuent à faire ce qui est prescrit de faire et à ne pas faire ce qui est prescrit de ne pas faire. Ceux qui s'évertuent à ne pas faire ce qui est prescrit de faire et à faire ce qui est prescrit de ne pas faire. Ceux qui ne savent rien à ce sujet et qui sont esclaves de leur ignorance et des manipulations. Et les enfants qui sont innocents et victimes désignés coupables et responsables des fautes du monde des adultes qui ne sait peut-être pas s'en occuper. Qui s'occupe des enfants et des adolescents dont on ne s'occupe pas? S'en occupe-t-on en bien, en mal ou n'importe comment? Que deviennent les enfants qu'on a empêchés de grandir? Adultes ou enfants? Prémédités ou accidentels? Volontaires ou involontaires? Sachant ou ignorants? Attaque ou légitime défense? Quels sont les faits et les preuves? Existe-t-il des circonstances atténuantes? Les témoignages et les documents sont-ils faux ou vrais? Les juges sont-ils corrompus ou impartiaux? Telles sont les questions qu'on pose dans les tribunaux. Interdire l'accès à un tribunal ou le déclarer incompétent à l'absence d'un avocat et l'assurance de ne pas être inquiété, et c'est le symptôme principal indiquant que l'espèce n'est pas humanisée. Ceux qui manipulent les enfants ou les adultes, pour s'en prendre à eux lorsqu'ils sont adultes ou vieux, ne font preuve que de machiavélisme pervers. Ceux qui ne font pas la différence entre les enfants et les adultes ne sont que des fous. les enfants et leurs parents n'ont pas à être tourmentés et dupés tout au long de leur vie, avec l'intention de les faire continuellement souffrir, sans espoir de délivrance, dans le but d'acquitter les négligences des adultes, pour avoir reproduit sans savoir des comportements et des gestes que d'autres innocents leur ont montrés, parce que c'est la faute des enseignants et des autorités. Les victimes sont exclusivement non responsables. Mais pour ne pas être irresponsables, elles doivent apprendre à devenir responsables de ce qu'on leur fait subir, dans l'espoir qu'un jour la justice soit appliquée en stoppant le crime, en ordonnant le dédommagement et en enfermant les criminels à la prison, afin d'être libérés de leur emprise. Il est affligeant de constater que trop de foules déséquilibrées occupent des postes de direction au sein des affaires commerciales, médiatiques, sociales, médicales, policières, judiciaires, politiques, religieuses, et qu'ils manient des fous. Sous-section. Compassion et pitié. Wikipédia définit la compassion ainsi. C'est la vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier. Ce mot provient des termes latins « comme »,« avec » et « patio », »,« souffrant », »,« supportant ». C'est être en interaction avec des personnes nécessitant d'être écoutées, aidées et soignées dans le but de protéger leur vie et leurs intérêts. C'est identifier les causes de la souffrance et chercher des solutions. C'est parfois montrer que les victimes n'y sont pour rien même si on ne peut rien y faire. C'est toujours affirmer que les méchants qui se donnent bonne conscience et qui inventent des justifications irrecevables sont coupables. Et c'est dans tous les cas soigner et amener chacun à revenir sur le chemin de la santé, de l'honnêteté et du travail. Dire à quelqu'un « je compatis » et l'ignorer, ne rien faire, c'est de la pitié. La pitié, c'est dire à quelqu'un qu'il est foutu et parfois l'achever ou lui interdire la mort pour en tirer profit. Les ordinateurs sont des automates sans pitié et sans compassion qui ne comprennent que le vrai et le faux, ainsi que le « fais ci » et « fais ça ». Le propre de l'être humain est d'avoir soit de la compassion, soit de la pitié, soit de l'indifférence. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, sans savoir de quoi on parle. Un mensonge, c'est ce sur quoi on est d'accord et qui n'est pas la réalité. Les mensonges sont comme un fruit, plus un fruit égale un fruit chez un vendeur de fruits, à moins que ce ne soit une promotion. Une vérité, c'est une réalité universelle qui ne change pas à un instant donné, malgré la volonté humaine, et quels que soient les points de vue fragmentés et véridiques ou faussés que l'on peut en avoir ou en donner, et quel que soit le langage pour la décrire. La vérité, c'est comme un fruit plus un fruit égale deux fruits chez un vendeur de fruits, même en promotion. Agir mal, volontairement, c'est faire preuve de méchanceté ou de stupidité, c'est-à-dire d'une absence d'intelligence, mais de compétence. Agir mal, involontairement, c'est faire preuve de maladresse ou d'ignorance, c'est-à-dire d'une absence de savoir et d'incompétence. Sous-section. Droit et justice. Ce qui différencie les humains des animaux, hormis le mensonge et le crime, c'est l'esprit de compassion, d'entraide et de justice, ainsi que la médecine mécanique qui soigne les blessures du système locomoteur et qui répare les défenses immunitaires, et plus généralement la médecine, qui lorsqu'elle n'est correctement administrée et appliquée, soigne et augmente la survie. Les lois et les conventions sur les droits des humains et sur la justice ne servent à rien et sont inutiles si elles ne sont pas appliquées à tous, divisant ainsi le peuple d'en haut du peuple d'en bas, c'est-à-dire les riches et les pauvres au plein pouvoir, des riches et des pauvres sans droit, grâce aux décisions arbitraires, en vertu du pouvoir absolu de l'administration, des magistrats, de la sécurité sociale et des pouvoirs publics, et en vertu de la possibilité affirmée comme civilisée, bien fondée et de bon droit légal, de refuser de soigner, de défendre et d'accorder le droit de contestation et de recours, même auprès des plus hautes instances de l'autorité et des médias, au-delà même des frontières du pays où l'on est né. Lorsque les victimes ne sont pas soignées, qu'elles ne sont pas protégées et qu'on leur empêche l'accès à une cour de justice, il y a un problème de droit et de santé publique qui relève de la sécurité nationale et même de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que de la réforme du système politique, administratif, judiciaire, financier, médical, social, associatif et éducatif. En effet, si le pouvoir et la justice fonctionnent mal, c'est parce qu'il y a un problème politico-religieux et d'opinion, c'est-à-dire un problème militaire. Et ça, c'est un problème de direction. Et ça, c'est un problème d'enseignement et d'éducation. Et ça, c'est un problème de groupe, rien d'autre. Et c'est ça qui cause les problèmes avec les individus, la hiérarchie plénière. Lorsqu'une vie est en danger à cause des autorités, il y a trahison du peuple, car la vie de tous peut être menacée et torturée sur simple décision d'un comité de direction territoriale avec l'aide des divers acteurs de la vie des citoyens, car il a été inventé une maladie imparable pour posséder l'être humain nommée maladie psychiatrique ou psychose, ou délire de préjudice causé par des tiers et revendication de justice, dont le traitement est retrait des droits, brutalité physique et amputation chimique voire exécution. Lorsque les magistrats font barrage aux doléances afin de couvrir les activités répréhensibles des docteurs, des compagnies d'assurance, des pouvoirs publics ou autres, se déclarant civilement incompétents et jugeant pénalement les plaignants d'être en état mental déficient, sans procès, sans expertise, pour les accuser de ce qu'ils subissent et les placer sous surveillance, alors l'administration, les ordres de métier et le peuple sont rendus de fait hors la loi. Lorsqu'une autorité et une administration refusent de communiquer et d'agir pour le bien, c'est très sérieux et très grave, car malgré l'indépendance de la justice, les lois stipulent que l'État est garant de la bonne marche de la justice et qu'il a l'obligation d'intervenir en cas de dysfonctionnement et de crime. Lorsque la vie est en danger, on ne peut que solliciter protection, aide et soins et requérir le droit de témoigner en justice impartiale, malgré les risques et malgré les menaces, car il est impossible et absurde de lutter contre ça. Assassiner des enfants de parents ignorants et innocents, afin de justifier la négligence d'autres parents tout aussi ignorants et innocents, dans le cadre d'une vaste entreprise délirante et coupable, c'est très hypocrite, c'est très stupide, c'est très pervers, et c'est même très criminel. Sous-section, morale et éthique. Un être humain ordinaire, quelles que soient ses facultés, quelle que soit son intelligence, quelles que soient ses réussites, quel que soit son génie artistique, s'il ne connaît pas la vérité sur la vie, alors il ne peut ni comprendre ni agir bien, mais sinon il peut alors choisir de servir le mal. Il existe un mécanisme dans l'esprit des criminels qui démultiplie le préjudice subi. Les victimes sont non seulement victimes, mais sont également accusées d'être responsables. Les criminels pensent ainsi. C'est la faute des victimes si on leur fait subir des sévices. Telle est l'illogique et absurde justification absolue. Accuser, condamner et exécuter les victimes de ce qu'on leur fait tout en les culpabilisant, en les dénigrant et en les méprisant. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on pense et désire, quelles que soient les convictions et les actions, la première des choses les plus importantes est de ne pas blesser, et la deuxième est de soigner ceux qui ont été blessés, sinon l'individu, son groupe, sa communauté, son peuple, son pays et son espèce ne survivent pas, quelles que soient les idées. Interdire de soigner ou de se soigner est le crime des crimes. Emprisonner des gens dangereux est une chose, mais les torturer eux comme les innocents jusqu'à les tuer est un acte criminel, quoi qu'ils aient fait ou quoi qu'on suppose qu'ils pourraient faire. Alors lorsque ce sont les victimes qui sont maltraitées par les autorités, ce n'est pas de la justice, c'est un crime. Lorsqu'une autorité, et à plus forte raison une structure d'assistance, répond à une personne en détresse qui demande de l'aide et signale un crime, qu'elle dérange et qu'elle perturbe le travail. Quel est donc son travail? Les opinions et les croyances sont des décisions personnelles et collectives, arbitraires, décidées ou inculquées, basées sur l'ignorance des choses que l'on ne considère généralement pas, et sur les pensées supposées d'autrui. Les opinions sont le fondement du refus de savoir, et ce ne sont ni des hypothèses ni des arguments. Les faits ne sont pas des opinions, même s'ils peuvent être fabriqués, interprétés, travestis et contre-utilisés. Les faits sont des faits. En quoi consiste la tâche ardue des journalistes et des médias? À informer le public et à forger les opinions tout en relayant les communications. La Bible et les 10 commandements ont fait couler beaucoup d'encre et de sang. Beaucoup de mensonges et de fourberies ont été dits et écrits à ce sujet et au sujet de Dieu. Beaucoup de vies ont été inutilement blessées, séquestrées, détruites et tuées en leur nom et contre leur nom. Pourtant, le décalogue est la clé des règles pour servir ce qui est bien et ce qui est souhaitable, c'est-à-dire pour vivre, travailler et juger sans nuire. Les 10 commandements sont les paroles majeures qui correspondent aux 5 doigts des 2 mains de la créature. Les 10 doigts des mains et des pieds sont comme le bien et le mal, 5 pour le pouvoir divin, 5 pour le pouvoir humain, équilibré avec justesse grâce au respect volontaire des lois du divin. Divin est un ancien mot pour désigner les lois de l'univers et de la vie. Les commandements sont donnés dans l'ordre de 1 à 10 pour montrer que la racine du mal et de tous les crimes, c'est l'ignorance et la convoitise, et que pour y échapper, il est nécessaire que l'humain décide d'être soumis aux lois divines et non à son désir animal. Soumis est un mot mal compris. Les 10 plaies de la sortie de Mitzrayim, d'Égypte, sont les 10 libérations individuelles et collectives effectuées grâce aux 10 lois de la doctrine. Le terme « ascension » correspond à la montée du désir transcendé au-delà de l'impulsion animale à travers les cycles de la spirale du temps bénéfique nommée Séphiroth. Tandis que la chute est l'inverse, non parce que c'est une question de matérialisation, mais parce qu'en réalité c'est une question de mal, en tant que criminel ou en tant que victime. Nous déduisons ainsi que le bien, c'est la générosité, et que cette chose est la qualité fondamentale de la communication, être capable de donner et de recevoir. Tandis que le mal, c'est la convoitise, et cette chose est le défaut inhérent au refus de communiquer. Entre communiquer et ne pas communiquer, se trouvent les diverses variations d'interaction et de non-interaction qui varient du non-nuisible au nuisible. La nature de la matière est d'être un tourbillon formé par le désir perpétuellement oscillant de donner et de prendre. Une autorité qui enfreint ces 10 lois sans les réparer n'est plus une autorité. Les 613 commandements sont les paroles mineures qui accomplissent les 10 lois principales grâce au corps qui agit ou travaille, par les 248 règles, tu feras le bien. Et au nerf qui préserve ou garde, par les 365 règles, tu ne feras pas le mal. Sous-section, réparation et responsabilité. Rashi a dit, l'œil voit, le cœur convoite et le corps transgresse. Lorsque quelque chose de mal a eu lieu et que des actions néfastes ont été commises, l'être humain a généralement les attitudes suivantes. Soit il est dans la confusion, soit il ne s'y intéresse pas, soit il nie les problèmes, soit il aggrave la situation, soit il sollicite de l'aide, soit il résout les difficultés. La réparation des objets cassés relève de l'artisanat, de la maçonnerie et de la compétence technique. La réparation des corps abîmés et malades relève de la médecine, de la diététique, du sport et de la régénération génétique qui fonctionne par cycle imbriqué selon les niveaux cellulaires, tissulaires et organiques. La réparation du mental et des relations sociales relève des spécialistes en mécanismes comportementaux et verbaux, ainsi que de la bonne volonté et de la communication. La réparation des injustices et des dysfonctionnements administratifs relève des pouvoirs publics, des avocats, des magistrats, des juges, des politiciens et du peuple. En cas de transgression involontaire des lois de la Torah, le Lévitique ou Vaïkra indique ce que le responsable doit produire comme œuvre. Un Kohen ayant reçu l'onction offre un taureau, ni jeune ni vieux, ce qui représente la puissance de la souveraineté. Un chef offre un chevreau mâle, ce qui représente le pouvoir du leadership. Un citoyen offre une chèvre, ce qui représente la volonté de l'attachement. Un étranger offre un cerf, ce qui représente la splendeur de la force. Un groupe, une famille, une collectivité, une société ou un peuple offre un jeune taureau, ce qui représente le courage du renoncement à la convoitise des idoles et au plaisir des manigances. Le mot Aleph Yud Lamed en hébreu est souvent traduit par bélier dans la Bible, mais en fait ce mot correspond à un cervidé. En cas de transgression volontaire, la Bible ou Tanakh ou Mikra indique selon le cas échéant ce qui doit être accompli par les responsables, par les juges et par le peuple. En cas de certaines abominations réversibles, le livre de Néhémie est par exemple relatif à la réparation des cellules et en particulier des membranes des cellules nerveuses qui forment le cerveau et les grands plexus. Il est écrit en Roi, livre 2, 25.10. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. En Néhémie 1.3, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu, c'est-à-dire que le mental a été abîmé et les chakras brûlent. En Néhémie 12.27, lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit entrer à Jérusalem. afin de célébrer la dédicace et la fête par les louanges et des chants, au son des cymbales, des luttes et des lyres. En Néhémie 12.30, les sacrificateurs et les lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Sous-section Courage et force. Le courage dérive de la force, car sans force, pas de courage. C'est la force qui génère le courage et non l'inverse. Fatigué et faible, on a le courage de rien. C'est un principe élémentaire que tout le monde connaît, tout en affirmant l'inverse, en souhaitant courage à ceux qui n'ont pas de force. Ce phénomène mécanique relève de la manipulation de type primate, qu'on l'utilise volontairement comme involontairement. Quant aux manipulateurs stratèges, ce sont ceux qui s'occupent de voler les forces des victimes et tout le symbolisme des monstres en tout genre leur est exclusivement dédié. L'être humain passe son temps à manipuler les choses et les gens, en bien ou en mal, conscient ou inconscient des causes et des effets. C'est la même chose avec l'expression du conditionnement positif terriblement et fatalement stupide et aberrante « quand on veut, on peut ». Car en vérité, quand on ne peut pas, la volonté sert à rien sinon à créer les échecs, les erreurs, l'exaspération et les ennuis. Mais lorsqu'on peut, alors on est capable de vouloir. Et si on a de bonnes intentions, et que l'action est bénéfique et non nuisible, alors c'est qu'on agit peut-être bien.